en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette introduction qui va m'obliger à être au niveau de ce que vous avez annoncé. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser aujourd'hui à la séance de l'Académie des sciences politiques et de retrouver de vieux amis également, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le civil, si j'ose dire. Et je suis très frappé par le fait que la présentation que vous venez de faire de cet ouvrage de notre éminent collègue Soutou, au fond, est parfaitement congruente avec la situation d'aujourd'hui. Car l'opinion publique européenne, au lendemain de l'élection en Italie d'une coalition regroupant dans une perspective anti-européenne extrême gauche et extrême droite, curieusement unie par l'angoisse identitaire que donne à voir l'arrivée massive de migrants en Italie, passant par la Libye, qui est devenue cet État failli à travers lequel une grande partie de l'immigration africaine arrive en Europe. Au fond, cela montre bien comment aujourd'hui, à l'intérieur de l'opinion publique européenne, il y a une double inquiétude. Jean-Marie Soutou faisait référence à ces deux pôles qui étaient dès le début des années 1940, d'un côté le pôle hitlérien et de l'autre le pôle stalinien. Aujourd'hui, d'une certaine manière, un grand nombre de nos compatriotes sont pris entre une inquiétude identitaire motivée par l'arrivée qui semble complètement incontrôlable. Elle l'est peut-être contrôlée, mais en tout cas elle semble incontrôlable. Deux populations immigrées portées par l'explosion démographique, par la misère dans leur pays, par les guerres ou par le désir de changer de vie, en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Afrique du Nord d'une part, et d'autre part, hantée par l'existence d'une sorte d'entité supranationale à laquelle beaucoup ont du mal à s'identifier car ils n'en perçoivent pas les instruments démocratiques, à savoir l'Union européenne. Et entre cette enclume et ce marteau, d'une certaine manière, il y a la place pour ce qu'on appelle peut-être par facilité aujourd'hui l'ensemble des populismes et le mariage de la carpe et du lapin entre les Cinque Stelle et la Lega en Italie en est certainement une expression qui est pour l'instant infrapolitique en son inception, peut-être politique aujourd'hui et métapolitique demain, mais qui en tout cas fait peser des questionnements majeurs sur le devenir de l'Union. Et comme vous le disiez à l'instant, à la fin de votre propos introductif, la défiance envers l'institutionnalisation des médias, la prévalence accordée par la jeunesse pour l'information immédiate au sens propre qui passe par les réseaux sociaux et qui donne sinon l'illusion de la vérité comme un idéal, du moins le confort de la vraisemblance, puisque l'essentiel de ce qui parvient par les réseaux sociaux est liké. Osons cet anglicisme sous votre coupole, car je ne vois pas comment on peut lire en français, par des groupes affinitaires. Et donc, est porté par la sanction de la vérité qui est celle des « friends », osons cet autre mot, de Facebook et autres réseaux, au détriment d'une instance d'arbitrage intellectuel qui aujourd'hui fait défaut et qui est un immense défi, non seulement pour vos académies, mais aussi pour l'université, dont aujourd'hui le magister n'est plus considéré ou est battu en brèche, aussi bien dans le bas de la société que, notamment en France, par nos élites issues des institutions bien connues qui ont traîné l'université dans la boue. Alors, on est aujourd'hui confiné dans cette situation qui est très inquiétante et qui nécessite indéniablement un sursaut citoyen. Et c'est ce sursaut citoyen qui est précisément interrogé, mis en cause par l'émergence de ces nouveaux médias sociaux qui se réfèrent à d'autres types de solidarité, à d'autres types de constructions identitaires que ce que aussi bien la construction des nations que la construction de l'Europe à travers ses idéaux se sont efforcés de mettre en œuvre. Vous avez tout à l'heure évoqué les grandes dates de l'émergence de ce mode de communication. Alors si on s'intéresse au djihadisme, comme vous m'avez demandé de le faire pendant cette séance, on peut considérer que le djihadisme contemporain a connu trois phases successives qui sont du reste très précisément corrélées à un mode d'expression, à des vecteurs de transmission qui évoluent en fonction du développement des technologies. La première phase du djihadisme, et ces trois phases s'inscrivent dans une sorte de mouvement hegelien, d'ailleurs tout à fait curieux, à l'insu certainement de leur protagoniste, avec un moment d'affirmation, un autre de négation et ensuite de dépassement. Le premier moment, donc, c'est celui qui, en 1979 et jusqu'à 1997 à peu près, va privilégier le djihad contre l'ennemi proche. Pourtant, il s'inscrit à l'intérieur d'un système planétaire. En 1979, une année charnière qui a du reste été évoquée comme telle, paradoxalement, par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui dit que tout ce qui va mal a commencé en 1979, c'était pour lui aussi une occasion d'incriminer l'Iran, bien sûr. Donc cette année commence par la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini revient de Naufle-le-Château à bord d'un avion d'Air France à Téhéran, se prolonge par la signature de l'accord de paix israélo-égyptien sous les auspices du président Carter, continue avec la prise d'otages des diplomates américains à Téhéran d'une part, la prise d'assaut de la grande mosquée de la Mecque par des extrémistes qui vont plus loin que ce que le wahhabisme leur avait enseigné, et du reste la grande mosquée sera reprise par les unités d'élite du GIGN qui ont fait une conversion en parole à l'islam pour pouvoir pénétrer sur les lieux saints, et s'achève in fine par l'invasion soviétique de l'Afghanistan. C'est effectivement une année charnière, et c'est cette invasion de l'Afghanistan qui va fournir aux États-Unis, ça a été théorisé rétrospectivement par M. Brzezinski, l'occasion de d'infliger un Vietnam à l'Union soviétique. De fait, 10 ans plus tard, le 15 février 1989, l'armée rouge quitte Kaboul et cela va fournir, ce n'est plus qu'un tigre de papier, la possibilité de la chute du mur de Berlin le 9 novembre de cette même année, 1989, entraînant la fin de la guerre froide et de l'URSS. Lorsque je demandais à mes étudiants à Sciences Po, j'espère que Jean-Claude Casanova ne va pas répéter cela, ce qui s'était passé le 15 février 1989, ils étaient généralement muets et, dans l'angoisse d'une mauvaise note, regardaient leurs chaussures avec application. Je leur dis, bon, d'accord, vous ne savez pas, mais vous savez ce qui s'est passé le 14 février 1989. La plupart n'étaient pas nés. Affolement jusqu'à ce que, généralement, un étudiant ou une étudiante, pour rester dans le politiquement correct genré d'aujourd'hui, me dise « Monsieur, c'était la Saint-Valentin ». Je dis « Oui, monsieur ou mademoiselle ». Et ce n'est pas la bonne réponse. C'est le jour de la fatwa de l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie. Et par cette fatwa qui se déroule dans le monde des médias, c'est-à-dire dans l'opinion publique, on va y parler, l'ayatollah tire le tapis sous les pieds de la coalition saoudo-américaine qui, à travers le djihad, a fait mordre la poussière à l'URSS. Et nous sommes la plupart d'entre nous ici, malheureusement, pour nous tous, assez âgés pour avoir nous rappeler cette époque. Ce n'est pas seulement de l'histoire, comme c'est le cas pour mes étudiants, mes anciens étudiants à Sciences Po, mais c'est pour nous de la mémoire. Vous vous en souvenez, à l'époque, personne ne parlait du retrait soviétique d'Afghanistan, qui était pourtant la clé de ce qu'allait devenir le changement du monde et la fin de la guerre froide. Le général de Gaulle fait revenir, M. Soutou fait revenir, pardon, le début de la guerre froide à 1941. Généralement, on considère que la chute du mur, le 9 novembre, le 9-11, est son achèvement. Moi, c'est mon métier d'orientaliste, je plaide pour ma paroisse, je le daterai du 15 février personnellement. Car sans le 15 février, c'est-à-dire le départ de Kaboul, il n'y aurait jamais eu de 9 novembre. 9-11, gardez bien ces deux chiffres en tête, car vous allez voir que leur interversion va jouer un rôle dans quelques instants. Et donc, on est à ce moment-là dans un monde où, justement, la traduction à travers l'information, à travers l'opinion publique, joue un rôle fondamental. Qu'est-ce qui, bien sûr, c'est un scandale au sens grec du scandalon, sur lequel le pavé qui dépasse de la chaussée, sur lequel on trébuche, et ainsi on montre ce qu'il y a sous la toge en trébuchant, donc ça crée du scandale. Le 14 février est évidemment un scandale, puisque un ayatollah plus ou moins connu depuis l'Iran émet une fatwa, c'est-à-dire une condamnation à mort. Vous avez vu l'amabilité de rappeler que j'en suis l'une des victimes collatérales tardives, qui condamne un citoyen britannique qui s'appelle Salman Rushdie, enfin un sujet à l'époque de sa très gracieuse majesté, à mort, car il aurait blasphémé le prophète dans un ouvrage de fiction. Et le regretté Umberto Eco, à l'époque, avait indiqué que l'ayatollah ne semblait pas savoir ce qu'était qu'un pacte fictionnel. L'ayatollah ne s'en fichait, pardonnez mon français, comme on dit en anglais, complètement. Ce qui importait pour lui, c'était de reprendre le contrôle de l'opinion publique musulmane comme le défenseur par excellence des musulmans opprimés et oppressés à travers le monde, en indiquant qu'il punissait celui qu'il accusait d'avoir blasphémé le prophète à travers la publication des versets sataniques. Et cela, bien sûr, contre ce que ses rivaux saoudiens et ses ennemis du grand Satan américain feraient le lendemain, c'est-à-dire avoir réellement été capable de bouter hors d'Afghanistan terre d'Islam, l'athée soviétique qui l'avait envahi. Donc on voit bien comment la manipulation ou l'action sur l'opinion publique par une économie de moyens extraordinaire permet dès cette première phase du djihad à l'Iran de voler la vedette à l'Arabie saoudite et aux États-Unis. Ce ne sera qu'un temps, puisque ensuite, en effet, c'est à la conséquence du départ de l'armée rouge Tigre de papier de Kaboul, ce sera la chute du mur de Berlin, la perestroïka et la fin de l'URSS. Mais c'est un élément qui d'emblée est très important et qui va jouer un rôle significatif pour instaurer cet espace de sens islamique qui, aujourd'hui, à l'intérieur des relations internationales, et depuis 1973 en réalité, s'est immiscé dans cette opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest que Jean-Marie Soutou décrit si avec tant d'éloquence. Puisque en 1973, en octobre 73, lors de la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, alors c'est une instance laïque, donc on va l'appeler la guerre d'octobre, hein, mais elle est connue pour des raisons sur lesquelles je n'épiloguerai pas comme guerre du Kippour, car elle met à profit le jeûne juif du Kippour en Israël pour bénéficier d'un effet de surprise, mais du côté musulman, c'est le Ramadan. Or, pendant le Ramadan, on n'a pas l'autorisation de consommer de nourriture entre le lever et le coucher du soleil, sauf si le djihad est proclamé par les docteurs de la loi, car le Ramadan affaiblissant les capacités offensives des soldats musulmans, ceux-ci pourraient être vaincus et cela aboutirait à la destruction de l'islam. Or, ce qui importe, c'est la pérennité du contrôle de la religion et sa victoire sur la terre. Donc, les moyens sont subrogés à la fin, on fait de nécessité vertu, et la proclamation du djihad suspend le ramadan. Ce qui fait que la guerre d'octobre 1973 est pensée et perçue dans le monde musulman comme un ramadan. Comme un djihad. Et ce faisant, elle en devient un. Et elle va permettre aux pétromonarchies de la péninsule arabique, Arabie Saoudite en tête, et quelques autres, de se prévaloir des fruits de la victoire de 1973, remportée non pas tant par la force militaire des Arabes, mais par la combinaison du pétrole et du religieux. Pourquoi ? Parce que Israël, abondé par les États-Unis et par le pont aérien militaire, effectue une contre-offensive victorieuse sur le Sinaï, traverse le canal de Suez, va vers le Caire et s'arrête au kilomètre 101, alors que il n'y a plus rien devant eux. Pourquoi ? Parce que, quelques jours auparavant, les pays arabes exportateurs de pétrole ont proclamé un embargo sur les pays qui soutiennent Israël. Les prix du pétrole explosent et l'économie mondiale ne peut plus le supporter. Donc on a là la mise en place d'un espace de sens islamique qu'on pourrait caractériser comme l'ère du baril et du Coran, si vous voulez, qui va transformer très profondément les choses. Mais cet espace de sens islamique est conflictuel en lui-même, puisqu'il va opposer puissance sunnite d'un côté, puissance chiite sous la direction d'un Iran révolutionnaire de l'autre, pour l'hégémonie sur cet espace de sens. Et 1979, c'est avec l'invasion soviétique en Afghanistan et la réplique américaine, la volonté des États-Unis d'aider l'Arabie saoudite à dominer cet espace de sens. Et Monsieur Brzezinski, interviewé à l'époque par le Nouvel Observateur, enfin 1998 en rétrospective, lorsque paraît son livre Le Grand Échiquier, explique que, après tout, c'était très bien, on a fait rendre gorge à l'URSS, et puis l'islam politique n'existe pas, ce ne sont que des sottises, dit-il en 1998, c'est un fantasme. Et on voit bien comment le monde américain à l'époque espère utiliser cet espace de sens islamique à son profit. De fait, en 1989, cela semble avéré. Ça aboutira à la chute du mur de Berlin. Mais la veille du retrait de Kaboul, il y a la fatwa. Et cette fatwa va galvaniser à travers une opinion publique musulmane prise en otage, en se servant des émotions notamment et du religieux, le rôle de l'Iran. Cette première phase du djihad, à l'exception de Khomeini, qui a eu un usage visionnaire des médias audiovisuels et de la possité de l'expression qui est ensuite reprise et amplifiée par la machine médiatique mondiale à l'époque audiovisuelle, mais aussi encore de l'écrit à ce moment-là, cela néanmoins se produit dans un monde qui est encore assez largement dominé par l'écrit. Le grand idéologue du djihad en Afghanistan, un palestinien frère musulman du nom de Abdallah Azzam, fait paraître probablement vers 1985 le grand manifeste qui fait du djihad armé l'objectif qu'il assigne aux musulmans et à l'humanité pour le triomphe de l'islam sur la terre, dans une revue imprimée et un petit livre publié en Arabie Saoudite ou ailleurs. La revue s'appelle El Jihad, le Jihad, et le texte El Haq bel Qafila, c'est-à-dire rejoint la caravane, sous-entendu, du Jihad. On est encore dans un univers de l'écrit, de la difficulté des transmissions, de la lenteur de la répercussion des idées. Cet univers de l'écrit est également tributaire des déplacements physiques des individus sur la planète. En effet, ce sont les djihadistes algériens, égyptiens, de retour dans leur pays après 1989, qui démarreront les djihads armés en Égypte et en Algérie, qui, comme vous le savez, va rejoindre jusqu'à notre pays, déborder de notre pays en 1995 et 1996, et également celui de Bosnie, et pas de Bosniaque en Afghanistan, mais ce seront des Égyptiens et des Saoudiens qui s'y rendront. On est encore dans un monde du temps lent, où l'opinion publique finalement a été captée principalement par les Iraniens et a privé les islamistes sunnites de leur véritable victoire. En 1997, faute encore de capacité de traduire les djihads locaux en images à destination de l'opinion musulmane mondiale, ceci échoue. L'armée algérienne, l'armée égyptienne, les bosniaques avec l'aide occidentale, en 95 pour ces derniers, l'automne 97 pour les premiers, finalement vainquent le djihad. Et si on y réfléchit en rétrospective, on n'a quasiment aucune image du djihad en Algérie pendant les années 1990. Alors qu'aujourd'hui, Daesh, c'était que tous les jours, au petit déjeuner, le choix entre les décapitations, les électrocutions, les crémations vivantes, etc. Donc, on est dans une sorte de phase préalable pendant lesquelles le djihadisme utilise avec maladresse les médias, également considérant que l'image est haram, c'est-à-dire la représentation humaine est illicite religieusement. Les choses changent de manière très importante à partir de la deuxième phase du djihadisme, la phase Al-Qaïda, dont on peut assigner l'origine à 1998 et qui cesse d'être dominante en 2005. Elle va se poursuivre, elle est encore présente aujourd'hui, mais sa grande phase, c'est 98-2005. Alors, là, on change de mode de média, déjà. Le grand idéologue de la première phase, Abdallah Azzam, publie avec les aléas de l'impression, du papier, de l'encre, des caractères, son livre Rejoint la caravane. Il était très difficile à trouver à l'époque. Je l'ai moi-même récupéré en 1998 à Kaboul, dans la bibliothèque de l'Intercontinental, l'ex-Intercontinental, qui devait s'appeler je ne sais quoi à l'époque. Et on avait beaucoup de mal à avoir accès à ces documents. Quand vous avez très aimablement rappelé, Monsieur le Président, que d'entre 1980 et 1983, j'étais en Égypte, où je préparais ma thèse sur les mouvements islamistes qui ont assassiné Sadat pendant que je les suivais. Mais obtenir les tracts de ces mouvements, c'était, si j'ose dire, la croix et la bannière à ce moment-là. C'était très compliqué, il fallait toutes sortes de réseaux. Aujourd'hui, un clic et j'ai toute la littérature de Daesh, là, dans la seconde, sur mon téléphone. Si vous voulez. On a changé de monde. Donc, dans cette deuxième phase, nous sommes pas encore à Daesh, qui sera la phase 3, d'emblée, le manifeste, le texte fondateur de cette deuxième phase, qui s'appelle « Forsan tahta rayat al-Nabi », c'est-à-dire « Cavalier sous la bannière du prophète », de la plume du médecin égyptien Ayman C'est pas une alerte à la bombe, hein, vous êtes sûr? Ayman al-Zawahiri est publié en ligne. On ne sait pas exactement quand. Probablement vers 98-99. En fait, on en aura véritablement, paradoxalement, ce sera un retour de l'écrit, on en aura véritablement la trace concrète en 2001, lorsqu'il est imprimé par un journal arabe de Londres. Donc ce texte, qui s'inscrit sur le web, parce que le web, en gros, commence en 1996, à peu près, hein, c'est le web, l'Internet, et Al Jazeera sont concomitants en 1996, une date très importante, qui précède justement la deuxième phase du djihad et qui va donner ses conditions de possibilité. Le texte explique que se focaliser sur les despotes locaux, laquais, non pas de l'impérialisme comme on disait autrefois, mais apostats et laquais de l'impiété mondiale, c'est une erreur. Les masses musulmanes ne suivront pas l'avant-garde. Alors, on a des rémanences de vocabulaire marxiste, du reste, là-dedans. Et ce qu'il faut pour que les masses soient séduites, c'est faire un grand coup et taper l'ennemi lointain. Ce sera le 11 septembre aux États-Unis. Ça commence par les attaques contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya le 7 août 1998. Ça continue par l'attaque du destroyer américain Cole à Aden en octobre 2000. Et l'ACME, c'est le 11 septembre 2001. Alors, le 11 septembre, c'est le 11-9, justement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du 9-11. C'est-à-dire que la fin du mur de Berlin, C'est la fin du XXe siècle, c'est la fin de l'affrontement communisme, libéralisme ou capitalisme, comme vous préférerez, qui domine l'essentiel du XXe siècle. Et le 11-9, enfin en français c'est le 11 septembre, c'est le début à la fois du troisième millénaire chrétien et du millénium islamiste, dans l'esprit de ceux qui le mettent en œuvre. Et cette numérologie dont les islamistes, dont les djihadistes tirent argument pour montrer que, au fond, leur agir n'est pas seulement humain, mais qu'il s'inscrit dans une vision eschatologique qui ne peut être que dictée par le Créateur, par Allah. On va en trouver énormément d'autres exemples. Je viens d'évoquer le double attentat en Tanzanie et au Kenya, qui marque véritablement le début de la deuxième phase du djihadisme. Le 7 août 1998, c'est le 8e anniversaire de l'appel du roi Fahd, le 7 août 1990, roi Fahd d'Arabie Saoudite à l'époque, aux troupes américaines pour venir en Arabie Saoudite alors que Saddam Hussein vient d'invader le Koweït et menace les champs pétrolifères. Et par là, Ben Laden marque sa rupture explicite avec ce salafisme en peau de lapin, le salafisme quiétiste, et fait la rupture entre salafisme djihadiste et salafisme saoudien, si vous voulez. Le 11 mars 2014, à Madrid, l'attentat des 4 trains qui devaient arriver dans la gare d'Atocha, heureusement, le syndicalisme ou autre des chemins de fer de la Renfe fait que les trains n'arrivent pas tout à fait à l'heure et on évite que la gare ne s'effondre avec sa verrière et il n'y a que 191 morts. C'est évidemment non seulement un parallélisme avec les 4 avions, les 4 trains, mais c'est aussi 911 jours après le 11 septembre. Donc tout est construit pour envoyer des signes métapsychologiques ou psychiques destinés à montrer que pour le segment de l'opinion concernée, on est dans la réalisation du miracle. Et dans un temps qui est le temps divin, d'une certaine manière. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Alors, le 11 septembre est un produit qui est construit délibérément pour la télévision. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, évidemment. Du reste, Zawahiri, dans son manifeste Forsan Tahta Rayat al-Nabi, donc cavalier sous la bannière du prophète, qui est une manière de situer le djihad contemporain dans le djihad originel du prophète, puisque les cavaliers en question, ce seront les 19 kamikazes des 4 avions, mais qui sont le remake, si vous me permettez cet autre mot anglais, mais puisqu'on parle de médias audiovisuels, on a le droit, j'espère en tout cas, des cavaliers qui conquièrent l'empire sassanide. Hein, pour les djihadistes, pour Ben Laden et les autres, la chute de l'Union soviétique le 9 novembre 1989, c'est le remake de la chute de l'Empire sassanide en 636 lors de la bataille de Qadisiyya, détruite par les armées du prophète. Et c'est cela qui va permettre ensuite, de même que les armées du prophète se sont retournées vers l'Empire byzantin après avoir détruit l'Empire sassanide. L'Empire sassanide et l'Empire byzantin étaient les deux, si j'ose risquer cet anachronisme devant des historiens aussi éminents qui sont réunis ici, c'est la même chose. Donc, on va, le 11 septembre 2001, attaquer New York comme les armées musulmanes ont attaqué Byzance jusqu'à ce qu'elle tombe à l'été 1453. Du reste, le terme officiel, l'expression officielle en arabe djihadiste pour parler du 11 septembre, c'est el razwatayn el mubarakatayn, c'est-à-dire les deux razia bénis sur New York et sur Washington, quoi, sont deux. Et il y a toujours une dualité, parce qu'il faut montrer le temps providentialiste et le temps réel. Le fait que le phénomène soit dédoublé au même moment est quelque chose qui est stupéfiant et de l'ordre du miracle, et qui est donc destiné à favoriser le recrutement par l'évidence miraculeuse, si vous voulez. De même que dans les années 1990, quand le Front islamique du salut en Algérie rassemblait des foules dans les stades, soudain, il y avait écrit « Allah » dans le ciel, en caractère arabe. C'était des lasers qui venaient de Chine ou je ne sais où, de Hong Kong, qui écrivaient ça dans le ciel. Mais les gens qui voyaient « Allah » écrit dans le ciel ne pouvaient que voter pour le fils au municipal. Donc on a cette construction de l'opinion qui utilise à la fois des registres très anciens, mais qui sait les mettre à jour. Et Zawahiri, dans son texte, explique que on a perdu la guerre médiatique dans la première phase. Désormais, nous allons la gagner. Et donc, cette guerre, c'est la façon dont le 11 septembre est construit. Le 11 septembre est une mise en scène hollywoodienne destinée à mêler le registre de la fiction, les tours infernales de Hollywood qui s'effondrent, avec la réalité. Ce qui capte l'opinion, une opinion qui est à l'époque principalement déterminée par ce qu'elle voit à la télévision. Une télévision qui a pourtant changé par rapport à la phase précédente, puisque la prolifération des réseaux satellitaires, au premier rang desquels la chaîne Al Jazeera, une chaîne donc montée par l'émirat du Qatar pour favoriser son emprise sur le monde musulman et surtout sa concurrence avec l'Arabie saoudite pour l'hégémonie sur l'espace de sens sunnite. Donc cette chaîne légèrement déviante qui ainsi peut capter plus facilement une opinion mécontente, mais qui évidemment ne critique jamais l'émirat où elle est située, et qui, lors des printemps arabes, va servir de tam-tam pour les frères musulmans et pour faire des frères musulmans les intellectuels organiques des révolutions. Donc, c'est la chaîne Al Jazeera qui est le vecteur princeps pour l'expression du djihadisme. Et pourquoi est-ce que ce type de phénomène est aussi spectaculaire? C'est parce que, à l'époque, les djihadistes ne sont pas en possession des moyens de diffusion de l'information. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils créent un spectacle dont la dimension scandaleuse, encore une fois, au terme du scandalon que j'ai évoqué tout à l'heure, fera que les médias, qu'ils ne contrôlent pas complètement, Al Jazeera a des sympathies, mais des sympathies complexes, mais des sympathies quand même, mais pas totalement, ne pourront pas faire autrement que de le diffuser. Et nous sommes assez âgés, encore une fois, pour nous rappeler que pendant, je ne sais pas, disons un mois après le 11 septembre, on ne voyait que ça en boucle à la télévision, les avions qui tapaient dans les tours, etc. Parce que c'était un spectacle extraordinaire qui mêlait le registre de la fiction et le registre de la réalité, celui de Hollywood et celui de CNN, par le miracle d'Al Jazeera. Or, cette captation de l'opinion publique n'est pas suffisante pour assurer la mobilisation des masses populaires. Elle va effectivement effectuer un clivage. C'est le 11 septembre qui instaure le djihadisme comme une force de manière décisive à l'intérieur du système mondial. La Russie n'a pas encore relevé la tête à l'époque. On est dans un système complexe et qui va également montrer la faiblesse, exposer la faiblesse de la panoplie américaine, puisque les États-Unis, avec leurs missiles antimissiles et autres, peuvent toujours envoyer des missiles de croisière, mais les missiles de croisière, encore faut-il qu'ils identifient des cibles. Or, le monde d'Al-Qaïda est ductile, et les cibles, vous avez par exemple, après les attentats contre les ambassades américaines en 1998, le président américain envoie des missiles sur une usine pharmaceutique à Khartoum et un camp d'entraînement de Moudjahidine qui allait taper le Pakistan en Afghanistan. Donc les cibles sont précisément visées, mais politiquement c'est un échec. Et là, même si les djihadistes de deuxième génération ne parviennent pas véritablement à s'emparer de l'esprit, du pouvoir sur les masses musulmanes, la première partie du message est efficace, c'est-à-dire que l'Occident est affaibli, qu'il n'a plus les moyens d'éradiquer véritablement les choses, et ça se traduira bien sûr par la construction de l'invasion américaine en Irak. Celle-ci fabrique une contre-propagande hollywoodienne, si je puis dire. Face à l'échec des tours, c'est la statue géante de Saddam Hussein, place du paradis, place El Firdaus, qui est abattue par un câble attaché à un tank, comme l'étaient les statues de Staline ou de Lénine dans l'ancien bloc de l'Est. Et on pense que, puisqu'à l'époque aux États-Unis, on pense surtout en termes de... on plaque la lutte contre l'empire du mal soviétique sur l'empire du mal islamiste, et on pense qu'au fond, Bagdad, ça sera comme Varsovie et comme Prague. Après tout, les études arabes servent à quelque chose, mais bon, beaucoup, peu de gens le savent. Et c'est un échec, et surtout c'est un échec parce que ce phénomène a lieu le 9 avril 2013, la chute de Bagdad et la statue. Or, le 9 avril 2013, pour l'ensemble des chiites irakiens, c'est l'anniversaire de l'assassinat de l'imam Mohammed Bakr al-Sadr par Saddam Hussein, qui a été détruit avec un coup de planche clouté dans la tête, qui est le grand traumatisme du chiisme politique. Et le chiisme politique estime que, sans qu'il le sache, les Américains ont été l'instrument de la volonté divine pour détruire Saddam Hussein ce jour-là. Donc on a d'un côté la machinerie américaine qui fait tomber la statue pensant que ça sera perçu comme une victoire conçue selon les mêmes canons que la chute des statues de Lénine et de Staline, pour la masse des chiites irakiens dont les Américains considèrent qu'ils sont désormais leurs clients, erreur fatale, c'est au contraire, les pauvres Américains ne sont que l'instrument inconscient de la volonté divine. Donc on a, si vous voulez, cette machinerie qui se met en place. George Bush ensuite arrive avec son flying jacket pour dire « mission accomplished » depuis un porte-avions. Mais ça, c'est quelque chose qui rassure l'électorat occidental, mais qui n'a pas d'effet contraire par rapport à la population qui a été ciblée par la propagande de Jaïd. Cela étant, je vois que l'heure tourne et qu'il me reste 3 minutes, le troisième phase, mais nous en parlerons dans les questions-réponses si vous voulez. Au fond, ce djihadisme n'a pas réussi. En Irak en particulier, il a échoué. Ce sont les chiites, justement, qui ont détruit l'insurrection djihadiste sunnite. Et paradoxalement, l'Irak aujourd'hui est un étrange condominium américano-iranien. Et donc tout ça ne fait pas du tout les affaires d'Al-Qaïda et des gens de sa mouvance. Et c'est donc là qu'arrive ce que vous avez évoqué, Monsieur le Président, tout à l'heure. En 2005, encore une fois, un 14 février. Alors vous allez croire que je suis obsédé par la Saint-Valentin. Et là, le 14 février 2005, quand je pose à mes étudiants la question, bon, les étudiants libanais disent « Monsieur, c'était l'assassinat de Hariri », c'est vrai, mais c'est aussi peut-être plus important pour nous, et pour votre, en tout cas pour le sujet qui m'a été imposé aujourd'hui, c'est effectivement 14 février 2005, c'est la licence que reçoit YouTube dans un tribunal de Californie. Et ça va tout changer. Ça va tout changer puisque on n'aura plus besoin désormais de la télévision. On n'aura plus besoin de spectacles construits par le haut, top-down, comme on dit en anglais, pour mobiliser les masses, mais on pourra, à partir du bas, dans un mécanisme dit bottom-up, diffuser les images et la propagande. Et ça change complètement les donnes, la donne de la captation de l'opinion publique ou d'une partie d'entre elles, à travers les réseaux sociaux. Et cela se produit miraculeusement encore au moment où, en janvier 2005, est diffusé en ligne exclusivement et connu en temps réel cette fois-ci, le manifeste du djihadisme de troisième génération, produit donc par un Syrien surnommé Abu Musab al-Souri, éduqué dans les écoles d'ingénieurs françaises, donc ceux qui disent que la France n'a plus d'influence se trompent, mais qui a ensuite épousé une Espagnole, qui lui a donné la nationalité Schengen, sans laquelle aucun terroriste n'est pris au sérieux, passeport Schengen, et qui a ensuite passé une dizaine d'années à Londres, ce qu'on appelait à l'époque le Londonistan, pour soutenir l'insurrection algérienne et quelques autres, qui deviendra ensuite l'officier de relations publiques de Ben Laden. Et comme il parlait mal anglais, plutôt mieux français, pour avoir accès à Ben Laden quand on est journaliste, il fallait passer par lui, donc c'était bien de connaître le français. J'espère que l'Académie appréciera également ces signes de l'importance de la francophonie. Et donc, qu'explique Souri dans son manifeste ? C'est que Ben Laden, avec son système pyramidal, s'est trompé, que le 11 septembre, c'était de l'hubris, que les kamikazes du 11 septembre, c'était des Saoudiens qui volaient dans les airs, mais sans aucun rapport avec la base, et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de créer un djihadisme de proximité. Et le cœur de ce livre illisible et très ennuyeux de 2000 pages, qui fait vraiment livre d'ingénieur poussif, c'est l'expression en arabe « Nizam wa Tanzim ». Je n'ai rien contre les ingénieurs, hein, mais chacun son métier. Et « Nizam wa Tanzim », ce qui veut dire « un système et non une organisation ». C'est-à-dire on est dans le système réticulaire et non pas dans le système pyramidal. Et comme Souri fréquentait l'université, ou en tout cas les écoles d'ingénieurs françaises dans les années 1980, époque de la plus grande efflorescence de Gilles Deleuze, je me demande jusqu'où il n'a pas été influencé par la fameuse théorie du rhizome révolutionnaire de Gilles Deleuze, vous savez, qui s'opposait au marxisme, le rhizome passait sous la terre et il y avait des choses qui sortaient comme ça. Bon, ça, des étudiants feront des thèses quand je serai mort là-dessus, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose en tout cas. Et toujours est-il que c'est là que les réseaux sociaux entrent en action. Et il n'est plus nécessaire d'utiliser les télévisions. On produit l'acte terroriste, on le filme et on le diffuse sur les réseaux sociaux. L'acte inaugural de ce phénomène, c'est en 2004 l'égorgement par un autre Abu Musab, il porte le même surnom arabe, Zarqawi, de l'entrepreneur, c'est un personnage compliqué, Nicolas Berg, en Irak, dans une combinaison orange qui est celle que portent les détenus de Guantanamo. Donc on va montrer que par là même que Guantanamo, c'est une infamie et on va faire la loi du talion face à Guantanamo, ce qui est aussi une déconstruction très simple et très efficace de Guantanamo. Donc on décapite ce malheureux en live, si j'ose dire, ça passe sur les réseaux sociaux, les télévisions n'ont pas besoin, tout le monde le voit. Et ensuite ça donnera les choses monstrueuses de Daesh puisque vous avez aimablement mentionné mes expériences, lorsque le 13 juin 2016 au soir, un ancien djihadiste qui a effectué son temps en prison, mais qui a ensuite été libéré. Laroussi Abdallah va assassiner le policier Jean-Baptiste Salvin et son épouse devant la malheureuse, devant les yeux de leur petit garçon de 3 ans, à Magnanville dans les Yvelines. Il se filme sur Facebook Live, alors qu'il est entouré de policiers dont il sait très bien qu'ils vont le tuer. Et il leur dit, ouais, mes frères, maintenant, je suis un martyr, et vous devez faire comme moi, et d'ailleurs, il faut tuer maintenant tous les journalistes, d'abord Gilles Kepel. Ce qui, vous l'avouerez, je n'ai rien contre les journalistes, mais c'est, comment on dirait en anglais encore une fois, adding insult to injury, qu'un professeur des universités respectables soit égorgé par le djihad comme journaliste, quand même, ça m'a fait beaucoup de peine, mais bon, écoutez, les journalistes ici apprécieront. Hein. Et... Donc on n'a plus besoin de la télé, on n'a plus besoin de la presse, qui n'est plus qu'à la remorque de ce type de phénomène. Et donc là, on a complètement changé de dimension. Alors est-ce pour autant, le chancelier m'a demandé tout à l'heure d'être optimiste, donc maintenant, alors on se demandait, maintenant arrive le monde optimiste, est-ce que les réseaux sociaux... sont l'alpha et l'oméga du djihad. Eh bien, écoutez, c'est pas si clair que ça, puisque, au fond, nous avons vécu entre 2015, Charlie Hebdo, et puis septembre 2016, le fameux attentat des femmes devant Notre-Dame qui a échoué complètement parce qu'elles étaient très mal formées, on a vécu une période extrêmement difficile. La destruction du territoire du califat, entre guillemets, de Daesh, l'été, l'automne 2017, a eu quand même pour effet d'annihiler le fonctionnement de cette machine djihadiste de troisième génération. Par ailleurs, le monde des réseaux sociaux, qui au début a surpris... les adversaires du djihadisme, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, finalement s'est retourné contre les intéressés, puisque les grandes machineries d'intelligence artificielle, essentiellement aux États-Unis, que ce soit Palantir ou d'autres, ont permis aujourd'hui de casser la plupart des codes. Et même si les services n'en parlent pas, on éditera ça dans le compte-rendu, évidemment, aujourd'hui, on arrive à identifier les émetteurs, les destinataires, et donc l'utilisation des réseaux sociaux pour la mobilisation est rendue plus difficile. Même s'il y a une prolifération d'individus, les algorithmes dans le monde des réseaux sociaux sont toujours in fine plus puissants que les individus. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais actuellement, on voit bien que le djihadisme marque le pas dans sa capacité à mobiliser l'opinion dans les actes délictueux. Qu'il reste présent, par mille autres modes, on est toujours là, mais j'ai le sentiment que, à regarder justement et à faire observer, surtout par mes étudiants, parce que moi je suis incapable d'aller sur les réseaux sociaux, puis ça m'ennuie terriblement à mon âge, on voit que l'enthousiasme pour l'instant, monsieur le chancelier, n'y est plus parce que finalement, eux qui sont tellement providentialistes, si l'État islamique a échoué, c'est qu'ils ont été punis par Dieu. Ils ont fait quelque chose qui n'allait pas. Et ils sont à la recherche d'un nouveau modèle, mais qui ne marchait pas. Alors je terminerai sur ce moment qui m'a un peu déçu, qui est la diffusion du testament de celui qui avait été l'instrumentateur, si je puis dire, de l'homme qui m'avait condamné à mort, qui m'a recondamné à mort lui-même deux fois après, Rachid Kassem, un franco-algérien de Roanne et originaire d'Oran, qui était éducateur social, ce qui est donc normal pour un djihadiste, et également dirigeant d'un groupe de rap, ce qui est aussi assez fréquent, qu'il avait appelé l'Oranais. C'est-à-dire qu'il avait, si j'ose dire, utilisé une métathèse quantitative, Roanais et Oranais étant l'expression parfaite de cette métathèse. Je ne suis pas sûr qu'il le savait. Et donc, Rachid Kassem, donc après m'avoir fait condamner à mort par son complice, puis m'avoir lui-même condamné personnellement à mort deux fois, disparaît, tué par un drone américain, ce qui fait que je suis l'un des rares Français favorables à Donald Trump, mais pour des raisons privées. Et donc son testament est diffusé. C'est ainsi. Mais apparemment, il n'était pas vraiment mort à ce moment-là. Enfin, il est en tout cas mort après. Et dans le testament, il explique ceci. Il explique, ouais, les frères, ça va plus du tout. L'État islamique, il n'est pas bon. Les gens qui sont compétents, sous entendu lui, on les enlève du premier rang parce qu'il avait fait une telle catastrophe avec l'échec du commando des femmes en septembre où tout le monde a été arrêté parce qu'elles sont toutes déballonnées dans la police. Donc ça a été l'échec du djihadisme en France, c'est ça, c'est septembre. C'est la capacité, le mélange entre la capacité de pénétrer les réseaux et l'efficacité de la police et la maladresse de ce Rachid Kassem. Et donc il dit ça va pas du tout. Il faut vraiment penser pourquoi est-ce que Dieu nous a punis en faisant ça. C'est sans doute qu'on a péché, etc. Et donc, paradoxalement, on a là, d'une certaine manière, l'achèvement étonnant de ce type de phénomène qui semble surpuissant. Et vous vous rappelez toutes et tous ici dans quel état d'angoisse nous vivions. Je ne parle pas seulement des condamnés à mort de l'époque, des sciatiques que causaient les véhicules de police sans amortisseurs dans lesquels nous étions trimballés, mais une espèce d'angoisse existentielle, c'est notre société, y compris du soupçon qui s'est répandu partout. Depuis la fin 2017, même si le phénomène persiste, il n'a plus la même force. C'est une des grandes questions, c'est de savoir comment nous allons être capables de construire sur cet échec de notre ennemi. Est-ce que nous allons être capables de le faire? Est-ce qu'au contraire, nous allons préférer nous endormir sur nos lauriers pour éviter telle ou telle politique qui ne serait mal perçue par l'opinion? Mais en tout cas, ce sera l'élément d'optimisme. Je crois que la connaissance et le savoir nous permettent de venir à bout de ce type de phénomène. Et si la chouette de Minerve se lève au crépuscule, comme on l'a dit de l'autre côté du Rhin, je crois justement que c'est le rôle de l'université. C'est le rôle de l'université d'arriver à mettre ces phénomènes en rétrospective, de l'analyser, comme j'ai tenté de le faire devant vous aujourd'hui, pour en tirer des leçons pour aujourd'hui. Mais ces leçons pour aujourd'hui, elles sont tirées par d'autres que les universitaires. Et ceci donc tire le rideau, et ce sera ma conclusion, avec mes remerciements pour votre écoute en cet après-midi bien chaude de juin. Et je vois que le sommeil n'a été quand même que peu fréquent, donc je vois que le djihad finalement nous reste éveillés et vigilants. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs.